Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 24 mars. Nathalie Perrin-Gilbert, candidate aux élections municipales de 2026, elle l'a confirmé dans les colonnes du Progrès. Les caméras du CSU de Gibord, désormais visionnées en direct par la police municipale. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. La ville de Vénissieux veut lutter contre les incivilités, notamment contre les dépôts sauvages. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Le 102, centre de santé situé rue de Marseille, a ouvert ses portes il y a 2 mois. Déjà 800 étudiants ont franchi les portes de ce centre de santé qui leur est destiné. Le ramadan se poursuit jusqu'à la fin du mois. La mosquée Othman offre chaque soir des repas aux étudiants et aux personnes en difficulté. Le dispositif Femmes Entrepreneuses d'Orange est renouvelé en cette année 2025. 10 femmes en bénéficient en Auvergne-Rhône-Alpes. Explication avec Inès Crimi. Les principaux résultats de sport également à la fin de cette édition.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais d'abord, ces militants bousculés dans le cortège de la manifestation contre le racisme samedi à Lyon. Parti socialiste, écologiste, communiste et place publique racontent que des militants du PS, les écologistes et de place publique, ont été pris à partie, bousculés par des gens vêtus de noir qui leur ont arraché les drapeaux. Les auteurs des agressions étaient masqués mais participaient à la manifestation, vraisemblablement membres de collectifs autonomes ou d'ultra-gauche. Au moins une vingtaine de personnes d'ultra-droite et d'ultra-gauche se sont par ailleurs affrontés dans l'espace public. Des cortèges ont défilé un peu partout en France ce week-end contre les politiques racistes et pour l'égalité des droits. Environ 6000 personnes ont battu le pavé samedi à Lyon contre le racisme. Nathalie Perrin-Gilbert est candidate aux élections municipales en 2026, l'ancienne adjointe à la culture. Elle est la première femme à se lancer dans la bataille des municipales à Lyon avec un objectif, incarner la gauche républicaine. Les Verts ont clivé la société lyonnaise, estime NPG dans les colonnes du Progrès. Les 129 caméras du CSU de Gibord sont visionnées en direct désormais par la police nationale. Une convention vient d'être signée entre la commune de Gibord et la police. Un nouveau dispositif qui doit permettre une surveillance continue jusqu'à 23 heures et faciliter l'avancée des enquêtes. Pour les besoins d'une enquête, la police nationale devait réquisitionner les vidéos auprès des agents municipaux. Désormais, le commissariat a accès aux images en direct. Les incivilités dont les dépôts sauvages figurent parmi les principales sources de mécontentement des habitants de Vénissieux, selon une enquête. Près de la moitié des personnes interrogées souhaitent des sanctions renforcées contre les responsables de ces actes inciviques. Autant demande également un renforcement du ramassage des dépôts. Le dispositif Visia s'inscrit pleinement dans le plan des 25 actions prioritaires définies par la commune pour améliorer le cadre de vie et apaiser l'espace public. 6 caméras intelligentes seront installées à Vénissieux fin mars, à proximité des principaux points de dépôt sauvage, un dispositif innovant pour responsabiliser les contrevenants à travers une phase de sensibilisation suivie, si besoin, de sanctions adaptées. Le 102, centre de santé situé rue de Marseille, a ouvert ses portes il y a maintenant 2 mois. Ce lieu propose une offre de soins et d'accompagnement en santé mentale pour les étudiants de toute l'académie. La structure vient en complément des services de santé déjà existants, mais souvent débordés. 3 médecins généralistes, un psychologue, un psychiatre et une infirmière accueillent les étudiants 4 jours par semaine et le samedi matin. Le 102, ce sont 5 bureaux de consultation, une salle d'accueil, une salle d'attente détente, une salle d'activité dans laquelle sont organisés des ateliers de prévention. 800 consultations ont été données au 102 centre de santé en 2 mois. Toutes les consultations sont gratuites mais nécessitent une prise de rendez-vous au préalable. Le numéro de téléphone, c'est le 04 82 91 02 20. Depuis le 1er mars, début du ramadan, la mosquée Othman offre chaque soir des repas aux étudiants et aux personnes en difficulté sans distinction de religion. Environ 300 à 400 repas confectionnés chaque soir par des femmes bénévoles de l'association La Fraternité. 10 femmes par jour sont mobilisées de 8h à 14h30 pour la préparation des repas. Une centaine de bénévoles sont mobilisés sur la semaine. Les bénéficiaires sont des étudiants et personnes en difficulté, parfois des familles. L'Iftar de La Fraternité propose soupe, repas chauds, fruits, jus, gâteaux, pain, dattes, eau, lait. Au total, 12 000 repas préparés et distribués. Le ramadan s'achève, je le rappelle, à la fin de la semaine.
Lyon Demain, planète, c'est féminin.
Nouvelle année et nouvelle saison pour le dispositif Femmes Entrepreneuses d'Orange. Depuis 2018, le groupe s'est donné pour mission de faire rayonner les femmes de la tech et leurs start-up. En 2025, ce sont 10 femmes qui en bénéficient en Auvergne-Rhône-Alpes. Des projets innovants, mais aussi engagés. Inès Crimi est allée les rencontrer.
Elles sont 10 en Auvergne-Rhône-Alpes et forment un groupe de femmes entrepreneuses. Pour la 7e année en 2025, le groupe Orange renouvelle son dispositif « Femmes entrepreneuses ». Son but, démocratiser l'entrepreneuriat féminin dans le numérique grâce à un accompagnement personnalisé. Sophie Marchand, directrice des projets innovants pour Orange en Auvergne-Rhône-Alpes, explique leur raison de reconduire le programme chaque année.
D'une part, c'est quelque chose qui les aide. Hein. On a fait une étude d'impact qui montrait que ça aidait à pérenniser l'activité, ça aidait aussi les entrepreneuses à se structurer. Notamment, je me souviens que chaque entrepreneuse interrogée avait pu créer 1,5 emploi. Ça veut dire en moyenne son emploi et puis un demi-emploi en plus. Et je dirais que c'est particulièrement important dans des périodes qui sont économiquement plus tendues, comme c'est le cas en ce moment, parce que le marché est plus compliqué, il y a moins d'argent pour financer les entreprises, donc les levées de fonds sont plus compliquées. Et c'est surtout dans ces périodes un peu critiques, hein, comme cette année, que c'est important, voire indispensable, d'avoir des structures de soutien pour des jeunes entreprises. Et puis, c'est le collectif que ce groupe de 10 femmes va créer entre elles, qui se soutient, qui, l'an dernier, on a eu deux participants du programme qui ont monté une joint venture ensemble. Donc là, il y a un petit peu tout le réseau qui va se créer entre elles et qui va leur permettre aussi de se soutenir et de développer leur activité.
Durant cette saison 2025, 10 mois d'accompagnement sont réservés à ces entrepreneuses. Nous leur avons demandé ce qu'elles attendaient particulièrement de ce dispositif.
Pour moi, c'est l'accès à un réseau, alors un réseau féminin, donc c'est plutôt intéressant parce que dans la tech, il y a peu de femmes qui entreprennent. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi partager en fait nos expériences, les moments les plus sympas, mais aussi les moments où on rencontre des difficultés avec une vision peut-être un peu plus féminine de l'entrepreneuriat.
Ça représente la possibilité d'avoir beaucoup plus de visibilité avec Orange. En fait, c'est un gros réseau qui a des ancrages aussi territoriaux forts. Nous, on est à Lyon et Paris. Et c'est aussi la mise en réseau avec d'autres femmes entrepreneuses qui permet des fois de surmonter des petits obstacles d'entrepreneurs et de se passer aussi des contacts.
Ravie de pouvoir partager aussi avec d'autres femmes de la tech nos expériences, nos compétences, nos galères, nos succès. Et voilà, et après, on attend du mentoring, des mises en relation. Et puis, on se laisse guider aussi par le programme.
Et le contenu de ce programme, justement, des mentors, une mise en visibilité sur les salons et sur les réseaux sociaux d'Orange et des ateliers de formation une fois par mois liés au quotidien de l'entrepreneuriat. Pour cette 7e édition, les projets retenus pour intégrer le programme devaient répondre à certains critères. Une attention particulière a été portée à la création d'emplois sur le territoire et à des startups ayant un impact environnemental ou social. C'est le cas de Nadia Auclair, cofondatrice de BioUp.
Chez BioUp, en fait, on a eu comme souhait de valoriser en fait le dioxyde de carbone, donc le CO2 qui est émis dans l'atmosphère, et de le rendre utile en fait, donc de fabriquer une énergie qui peut être utilisée pour chauffer, cuire, avoir toutes les utilités d'une énergie. Et en fait, on a développé une technologie qui nous permet de rendre ce dioxyde de carbone dans un bioréacteur utilisé avec des micro-organismes. Donc ça permet en fait de pouvoir travailler à des températures très basses, donc être peu énergivore, et de fabriquer ce qu'on appelle du biométhane.
Et en quoi ça va aider en termes justement d'impact écologique global votre entreprise ?
Alors ça va impacter plusieurs choses. Donc la première, c'est de pouvoir séquestrer du dioxyde de carbone, donc éviter les émissions de dioxyde de carbone. Deuxièmement, c'est de produire une énergie de manière propre. Et ensuite, c'est d'assurer aussi quelque part une souveraineté, parce qu'on va pouvoir produire localement en fait cette énergie.
Côté social, une autre entreprise a rejoint le dispositif, Gestia Solidaire. Avec des actions à Lyon et Paris, ce réseau d'agences immobilières a pour but d'aider des locataires présentant moins de garanties, comme les étudiants, les jeunes actifs ou les familles monoparentales, à trouver un logement. Le but est d'accompagner les propriétaires, les locataires et les acteurs du logement dans de l'immobilier solidaire. La fondatrice de Gestia Solidaire, Anne-Sophie Thomas, explique la genèse du projet.
C'est parti de moi personnellement, donc j'ai dû arrêter 2 ans mes études avant de pouvoir subvenir à mes besoins fondamentaux, notamment de logement. Et j'ai trouvé que c'était assez injuste parce qu'il n'y a pas forcément de solution quand on n'a pas de parents qui se portent garant. On se retrouve dans des situations qui mettent en péril sa vie personnelle, professionnelle, on ne peut pas faire d'études. Donc c'est parti de ce constat. Et après, moi, j'ai travaillé avant de me lancer dans l'immobilier solidaire. Et c'est là que j'ai conçu le concept Gestia Solidaire.
Qu'est-ce que vous avez réalisé pour l'instant qui est assez notable et que vous diriez qui vous a rendu assez fière sur votre entreprise ?
Je suis partie de zéro. Moi, j'étais toute seule quand j'ai créé Gestia Solidaire. On n'avait pas de clients. Le modèle, personne ne connaissait. Enfin, on a eu beaucoup de moments où j'ai eu des retours en disant bah, ça n'a pas fonctionné. Finalement, aujourd'hui, on a 220 propriétaires clients. On est sur Lyon et Paris. On est 6 salariés. J'ai fait une levée de fonds en mars 2023. Et aujourd'hui, bah, on a atteint la rentabilité. Et je me dis que bah, voilà, je suis assez fière de l'idée et de dire qu'aujourd'hui, je peux aider des gens qui, comme moi, bah, galèrent à se loger alors qu'ils sont étudiants et n'ont pas la chance d'avoir des parents garants.
Et dernière question, est-ce que vous avez des objectifs pour la suite, particulièrement pour cette année, vu que vous faites aussi partie maintenant du programme ?
Oui, les objectifs pour cette année, c'est de pouvoir ouvrir de nouveaux territoires. Et c'est ça notre objectif, c'est d'arriver... l'année dernière, on a aidé 500 personnes et on aimerait en aider plusieurs milliers. Et d'aller sur d'autres villes que Lyon et Paris. Donc c'est ça l'objectif cette année, c'est arriver à ouvrir de nouveaux territoires, refaire une levée de fonds, parce que l'impact, bah, ça se finance en fait. On a des modèles à lucrativité limitée, donc il faut chercher des financeurs. Donc c'est aussi ça, sous forme de subventions et privées. Donc c'est les deux gros objectifs de cette année.
Des objectifs qui seront appuyés par le programme Femmes Entrepreneuses. Depuis sa création, ce sont 600 femmes qui ont bénéficié de cet accompagnement d'Orange et 70 en Auvergne-Rhône-Alpes.
Merci Inès. Football, Première Ligue, l'Olympique Lyonnais féminin survole le derby et inflige une lourde défaite à la SSE 5-0. Les filles de l'OL peuvent voir venir le quart de finale retour de Ligue des Champions dans les meilleures dispositions. En basket, en élite, l'exploit de l'ASVEL à Monaco. L'équipe villeurbanaise s'est relancée en championnat de France en s'imposant logiquement en principauté 94-86. Geoffrey Lauvergne s'est malheureusement blessé au genou gauche. Le Loup a remporté une 5e victoire lors de ses 6 derniers matchs. Victoire des Lyonnais sur Vannes 36-21, ce qui leur permet de monter à la 5e place du classement. Mais 6 clubs se tiennent en 5 points entre la 5e et la 10e place. C'était en tout cas le dernier match du Loup avec comme président Yann Roubert, lequel a été désigné, je le rappelle, président de la Ligue nationale de rugby. Et puis l'Auditorium de Lyon célèbre ses 50 ans. L'Auditorium Maurice Ravel a été inauguré le 14 février 1975. Un ouvrage en béton brut qui rappelle la forme d'un coquillage posé dans un quartier en pleine reconstruction à l'époque. Du béton brut et des formes géométriques, ce type d'architecture a connu son heure de gloire entre 1950 et 1980. Une expo photo est consacrée à sa construction, l'occasion de faire un retour sur ce chantier emblématique du mandat de Louis Pradel, à découvrir donc à l'Auditorium à la Part-Dieu pour découvrir les coulisses de ce chantier colossal. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour la prochaine édition. Excellente journée.